Amos, certains livres de commentaires le situent vers 787-85. Bon, c'est pas toujours évident. Hein? Moi, je le situe plutôt vers 730. Il était déjà peut-être là, au moins 760, hein? Mais bon, voilà. 730, 720 avant Jésus. Et il est dans le nord d'Israël, dans les 10 tribus du nord, qu'on appelle Israël ou Ephraïm. Hein? Et ça, vous pouvez le voir, c'est dans le chapitre 7, verset 12. Si vous voulez, on peut regarder tout de suite. Chapitre 7, verset 12. Si quelqu'un veut le lire, ça serait bien, à voix haute. Prenez l'habitude d'avoir la Bible ouverte. Parce que si on n'ouvre pas au culte, c'est dangereux en semaine. Chapitre 7, verset 12.
Et Amastia dit à Amos, homme à vision, va-t'en, fouille dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire de roi, c'est une maison royale.
Donc vous voyez l'arrogance de cet homme, hein, qui remballe Amos, et qui dit, ben va dans, chez les autres, hein, ici on n'a pas besoin de toi, va leur casser les pieds. Et bien sûr, il est évident que cette impertinence, cette arrogance est un fait courant. Quand quelqu'un parle de Dieu, c'est un fait courant, c'est pas rien qu'à cette époque-là. Hein. La personne qui aime Dieu et qui en parle se heurte à ça. Hein. Mais là, vous voyez, c'est du mépris, vraiment. Et il avait un métier, cet homme-là. Amos se défend d'être un prophète. Regardez au verset 14. Amos répondit à Amazia, je ne suis ni prophète ni fils de prophète. C'est-à-dire, il y avait des gens qui avaient la tradition de faire le prophète, hein, de faire, je dirais, le malin, et de prétendument, Dieu leur avait révélé des choses, et ils allaient le dire, ils égaraient le peuple. Et donc, il y avait comme ça des gens inspirés, entre guillemets, qui faisaient le jeu du mensonge, ou du menteur, du grand menteur, et qui conduisait le peuple aux égarements, dans les égarements, et loin de la vérité, loin de la conversion, de la repentance. Et donc Amos se défend d'être un prophète de cette clique-là, de cette usuelle sociologique. Hein? Et il dit, je suis berger et je cultive des sycomores. Donc c'est son métier. Il gardait des moutons et il plantait, il cultivait des sycomores. C'était son métier. Et il dit ceci, l'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, va prophétise à mon peuple d'Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël. Donc nous voyons que Amos n'est pas un fonctionnaire ou quelqu'un qui a automatiquement désiré faire le malin et proclamer des choses de la part de Dieu. Et il y a quelque chose qui le contraint. C'est l'appel de Dieu, c'est l'élection. C'est une vocation. Elle n'a pas l'air d'être tout à fait désirée, mais il l'accepte. Vous savez que Jonas avait une vocation, c'était de parler à Ninive, et bien il s'est détourné, il est parti vers Tarsis, hein, Tarragone, mais pratiquement, il a quand même dû y revenir. Quand Dieu met la main sur quelqu'un pour le servir, je ne pense pas qu'il y a beaucoup moyen d'échapper. Regardez l'apôtre Paul, hein? Regardez les apôtres, et bon, ça manque aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, à l'Institut, là, il y a 6 nouveaux dans la première année, ou 5, ben, il y a juste un homme. Et on peut faire comme ça, généralement, les femmes, on y trouve des femmes. Et on ne voit pas, quand Jésus a dit, priez, parce que la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux, on ne voit pas beaucoup les hommes se pousser. Hein, et sauter la rambarde, hein, et du domaine de l'inconnu, sauter dans le vide, c'est-à-dire dans les mains de Dieu. Hein. Alors, pratiquement, c'est un peu le gars qui a osé, qui l'a fait, mais il ne correspond pas à ce cliché des prophètes habituels. Et donc, il sait qu'il est assez seul. et que ça ne va pas être facile. Les autres en face, c'est des sacrés loustiques qui prétendent qu'ils sont écoutés par les gens. Et lui, vous voyez, c'est souffrir la contradiction. C'est une guerre spirituelle. C'est fort important de comprendre la situation d'Amos, un peu comme Jérémie, tous les autres, hein, ceux qui sont gardés comme vrais prophètes. Hein. Parce que vous avez des prophètes dans la Bible, mais il y en a eu des centaines d'autres. Hein. Ceux qui sont gardés dans la Bible, c'est ceux, réellement, qui ont souffert la contradiction, l'opposition, et qui ont toujours amené à la repentance, à la conversion. Et qui ont démontré l'autorité de Dieu sur le peuple d'Israël, et la venue du Messie. Ils ne croyaient pas qu'ils étaient majoritaires, hein. Il y en avait des tas d'autres qui passaient leur temps. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, c'est comme ça. Dans le monde chrétien, vous avez un défilé de gens qui parlent au nom de Dieu, sur Internet surtout, et où en sont-ils réellement dans leur vraie relation avec Dieu? Où en sont-ils vis-à-vis du plan de Christ, hein? Je vous garantis que ce n'est pas si simple que ça, hein. Le dimanche prochain, j'essaierai d'analyser et de vous montrer réellement la pertinence de la théologie de l'Ancien Testament, et qu'il ne faut pas mettre de côté, et puis à la lumière du Nouveau Testament. Alors, un contemporain de Ésaïe, oui, pourquoi? Parce que, regardez, au début du livre d'Amos, parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, donc une ville, un village, oui, qui était berger, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda. Ozias, roi de Juda, hein? Bien, si vous regardez Ésaïe, chapitre 1, regardez Ésaïe. Ce n'est pas par hasard qu'il y a tellement de prophètes au 8e siècle. C'est un siècle vraiment, une charnière. Dieu a insisté, mais il a insisté pour que le peuple remette les choses en ordre. Et ça n'a pas été brillant, le résultat. Mais n'empêche, le vrai prophète fait son travail à contre-temps, même si ça ne plaît pas. Ésaïe, chapitre 1, verset 1, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, voilà, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Donc il a été sous quatre rois, Ésaïe, hein, deux, vraiment, qui avaient la crainte de Dieu, favorable, et deux, des phénomènes d'iniquité. Et donc Amos, ben, il a pas vécu là, dans le coin de Jérusalem, il a vécu dans le nord, à la même époque que Ésaïe. Et d'autres, hein, Michée, etc. Alors, s'il est content par l'un d'Ésaïe, Ésaïe était dans son temple, était prêtre, était un intellectuel, et lui, il était un verger planté des sycomores. Ils n'avaient pas la même réalité de tous les jours en face d'eux. Ils ne vivaient pas de la même façon. Et pourtant, ils avaient le même Dieu qui parlait de la même façon dans leur cœur. Donc vous voyez que, ça j'insiste, il y a des gens qui sont appelés par Dieu à le servir, qui ont des aptitudes intellectuelles importantes, et puis des autres qui n'en ont pas, et que Dieu appelle aussi. Et il ne faut pas faire de ségrégation. Dieu peut se servir de quelqu'un même qui ne sait pas lire ni écrire. Faire attention à tous ces clichés, parce que la parole de Dieu ne dépend pas de l'homme, c'est un don de Dieu. Et si Dieu choisit quelqu'un pour le servir, c'est évidemment l'autorité de Dieu qui interviendra pour le ministère. Alors, regardons dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 26, ça c'est avant les psaumes, hein, avant Job et tout ça, deuxième livre des Chroniques, chapitre 26. Tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amazia. Ozias rebâtit Éloth et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Ozias avait 16 ans, lorsqu'il devint roi, il régna 52 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amazia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence et la vision de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Donc il y a un temps dans sa vie où il a vraiment été fidèle, et puis une autre époque, boum! Ça nous montre bien que Il ne faut jamais se figurer qu'on est arrivé. Hein. On peut trahir le Seigneur après plusieurs années de vie chrétienne. Il faut faire attention. Et la sanction de Dieu sur ce roi, qui à la fin de sa vie est devenu orgueilleux, regardez, on est toujours dans le chapitre 26, verset 16, « Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre, il pécha contre l'Éternel. » Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Bon, pratiquement, il veut prendre la place des prêtres. Vous savez que le peuple juif fonctionne sur trois piliers. Le prophétisme, le sacerdoce et la royauté. Aucun des trois ne doit marcher sur les pieds à l'autre. Ça, c'est dans le plan de Dieu. Et là, nous voyons que ce roi, ben, il devient orgueilleux et puis il veut aller faire les prières, etc., les sacrifices. Et bien sûr, les personnes vont lui faire la remontrance. Il ne va pas l'accepter. Verset 19, la colère s'empara d'Ozias qui tenait un encensoir à la main. Et il s'irritait contre les sacrificateurs. La lèpre éclata sur les prêtres dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Verset 21, le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Voilà. Voilà comment ça se passe quand on joue avec Dieu. Ce n'est quand même pas anodin. Hein? Alors, c'est quand même, ça a été en général un très bon roi et très bien disposé. Alors, regardons dans chapitre 25, deuxième livre des Chroniques, chapitre 25, verset 27. Depuis qu'Amasia se fut détourné de l'Éternel, il se forma contre lui une conspiration à Jérusalem, il s'enfuit à Lachis, une immense forteresse que j'ai visitée. Hein. Il y en a des milliers de mètres cubes de pierre là. Il a fallu des gens pour travailler là. Mais on le poursuivit à Lachis et on fit mourir. On le transporta sur les chevaux, on l'enterra avec ses pères dans la ville de Juda. Donc, Amasia n'a pas été toujours correct. Hein? Il n'a pas toujours été correct. Ça arrive que quelqu'un est correct et puis change. Hein? Et voilà, il est sanctionné. Hein? Et c'est par une conspiration, par de la haine, qui arrive au meurtre. Donc, toujours dans l'histoire d'Israël, on voit que Dieu a l'autorité sur les événements. Je me suis figuré qu'on est arrivé à le mettre dans sa poche. Ça, c'est très, très important pour nous aussi, parce que c'est le même Dieu. Le même Dieu que celui d'Israël pour nous. Alors, regardons dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 15. Donc, c'est avant les Chroniques, hein, le deuxième livre des Rois. Deuxième livre des Rois, chapitre 15, verset 8. La 20e année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa régna sur Juda. Il régna 41 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaca, fille d'Absalom, d'Abisalom. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Il ôta du pays les prostituées, fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Et même, il enleva la dignité de reine à Maaca, sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa a bâti son idole et la brûla au torrent du Cédron.
C'est où ?
Premier livre des Rois. Excusez-moi, je dois aller dans le deuxième livre des Rois. Oui, le deuxième livre des Rois. Merci d'avoir réagi. Vous voyez les effets pervers de la grippe ? Je l'ai sous les yeux et je me trompe. Deuxième livre des Rois, chapitre 15, verset 8. La 38e année d'Azaria, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, régna sur Israël à Samarie. Il régna 6 mois. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait ses pères. Et il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Shalom, fils de Jabesh, conspira contre lui, le frappa devant le peuple et le fit mourir. Il régna à sa place. Le reste des actions de Zacharie, cela est écrit dans le livre des Chroniques des rois d'Israël. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait déclaré à Jéhu en disant « Tes fils jusqu'à la quatrième génération seront assis sur le trône d'Israël. » Shalum, fils de Jabesh, régna la 39e année d'Ozias, roi de Juda. Il régna pendant un mois à Samarie. Et puis vous avez la description des rois qui suivent. Et comme ça, vous pouvez avoir une idée de tous les hommes qui ont dirigé à l'époque où Amos avait son ministère. Hein? Bon, je ne vais pas le faire, mais c'est fort important. C'est fort important. Pourquoi ? Parce que vous avez le contexte. Si vous lisez dans ce chapitre, deuxième livre des rois, chapitre 15, vous avez un peu les images des hommes politiques de l'époque et de ce qu'ils ont fait au moment où Amos devait parler. Ok ? Ça, c'est fort important. Même si ce n'est pas toujours marrant, il y a des pages dans la Bible qui n'intéressent pas vraiment. Dites-vous bien que c'est comme à table. Il y en a qui aiment les frites, mais à côté, ils n'aiment pas les haricots, ils n'aiment pas les petits pois, etc. Alors, si tout le monde fait comme ça, moi, j'aime tous les petits pois. Bon, il y en a un qui mange tous les petits pois. L'autre, j'aime tous les haricots, moi, je veux haricots. Et les autres, alors. Et pratiquement, si vous voulez, quand on est à table, on s'apprend à manger un peu de tout, à équilibrer son menu. Bien, dans la Bible, c'est la même chose. On équilibre son menu, sa lecture, on doit arriver à lire tout. On doit pouvoir arriver. Pourquoi ? Même si ça ne touche pas mes sentiments, ça m'instruira de quelque chose que Dieu veut me dire. Ça m'instruira de quelque chose que Dieu a voulu me dire. Et ça n'a rien à voir avec mes goûts, avec mes idées préconçues, mes convoitises à l'égard de la parole de Dieu. Ça va ? Fort important. Alors, Amos doit commencer son boulot par des malédictions. Là, c'est pas marrant du tout. Et lire ici, au chapitre 1 de Amos, regardez-les bien. C'est fort, fort important. Parce que il se présente pas avec, en frottant les gens dans le sens du poil et en disant « Mais Dieu est bon, Dieu est amour, etc. etc. » hein? C'est un ministère difficile qu'il va avoir. Il va annoncer la colère de Dieu sur Juda, sur Israël et tous les peuples environnants. La colère de Dieu agissante. Alors, verset 2, « De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. » Donc, l'image d'un lion puissant qui met la crainte. Alors, première civilisation touchée, au verset 3, Damas. Damas. Pourquoi ? Ainsi parle l'Éternel à cause de trois crimes de Damas, même de quatre. Donc, une criminalité, des assassinats, des guerres, etc., organisées par Damas, sur la Syrie. Je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont foulé Galat sous des traîneaux de fer. Galat, c'est une tribu d'Israël, là où il y a le mont Golan, à peu près, si vous voulez, c'est dans ce coin-là. C'est au nord-est de toutes les tribus. Et sous des traîneaux de fer, c'est sous des herses. C'est-à-dire qu'on a couché, tous ces juifs qu'on a attrapés, on les a couchés par terre, on a passé avec des chars dessus et des herses. C'est pas mieux qu'aujourd'hui, hein, que ce qui se passe, hein. Alors Dieu est en colère et il annonce la ruine de Damas. Au verset 4 à 5, c'est toujours Damas. C'est toujours Damas. Ce qu'il ajoute en plus, c'est que les Syriens de Damas vont être déportés comme prisonniers vers le pays de Kir. Le pays de Kir, c'est la Turquie. Au verset 7. Dites-vous bien que dans l'actualité d'aujourd'hui, quand vous voyez la Turquie attaquée avec des chars et rentrée en Syrie. C'est pas nouveau sous le soleil, hein. Ils l'ont fait souvent. C'est parce qu'actuellement, il y a la Russie, les États-Unis, etc. Ils l'ont fait souvent. Ça n'a jamais été marrant pour la Syrie d'avoir la Turquie comme voisin. Et il y a beaucoup de gens de la Syrie qui vont être emmenés comme prisonniers. Ok ? Une attente, à mon avis, à l'heure d'aujourd'hui, avec le président qu'ils ont, une attente que de reconquérir des terrains qu'ils ont perdu en 1918. Les amis, c'est pas si loin que ça. Il y a 100 ans, c'est un empire. Intéressez-vous à l'histoire. Une partie de l'Arabie importante, la Jordanie, l'Irak, la Syrie, le Liban, Israël, une partie de l'Égypte faisait partie de la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie, la Yougoslavie, l'Arménie, toutes sortes de régions au nord du mont Ararat. Et vous croyez que c'est si loin que ça, 100 ans, dans les livres d'histoire et dans l'orgueil d'une nation? Les virus ont la vie dure dans les cultures, le virus du péché. Alors, tant pour nous, hein, tant pour nous que pour les autres. Hein. Quand vous voyez que Waterloo, 1815, bonne raclée, 1830, la France envahit le nord du Maroc et toute l'Algérie, et la prend aux Turcs. La prend aux Turcs, aux Ottomans. 15 ans après, vous voyez bien qu'ils n'étaient pas dégoûtés de la guerre. Le virus du sang, de la haine, de la convoitise, est dans l'homme. Dans l'homme. Vous pouvez regarder l'histoire de tous les peuples. Alors, regardons toujours Amos, au chapitre 1, verset 6. Nous avons Gaza. Gaza, la zone actuelle de Gaza, qui est, où on dit qu'il y a des Palestiniens. Palestiniens, c'est un mot déformé par Titus, par les Romains. C'était Philistin. Philistin, Palestinien, c'est la même chose. Alors, un arrêt de Dieu sur ces villes. Il y a plusieurs, il y a 5 principautés. Hein, Asdod, Ascalon, Ekron, etc. Il y en a encore Gath et puis encore une autre. C'est des villes, des principautés, c'est des petits rois, qui fédérations, un peu comme la Suisse. Et pratiquement, ben, ils aimaient bien faire des invasions, des incursions dans les tribus juives, et ils prenaient des prisonniers, des esclaves. Et qu'est-ce qu'ils en faisaient? Ben, ils les vendaient à Édom, verset 6. Ils faisaient du commerce, ils les vendaient. Voilà. Mais à cause de ça, Dieu va punir toutes ces tribus philistines. Hein? Alors, au verset 9, vous avez Tyr. Tyr, c'est l'empire de Phénicie. Hein? Et Sidon, c'est une ville très importante aussi avec Tyr. Civilisation sur la Méditerranée, assez puissante, très commerçante, avec beaucoup de bateaux, et très sophistiqué, hein, très élaboré comme civilisation, mais business avant tout, moins de sentiments possibles. Alors, ils ont fait aussi des prisonniers dans les tribus du nord d'Israël, et ils les vendent aussi à Édom. Ok? Eh bien, j'enverrai le feu dans les murs de Tyr, et il en dévorera les palais. Dieu a fait une sanction. On touche à mon peuple, c'est comme si on touchait à moi. Et où est donc Édom? Si vous avez votre Bible, vous regardez à la fin, vous avez des cartes, et vous pouvez voir où est Édom. Hein? Si vous faites attention, vous avez des cartes à la fin de la Bible. Donc Édom est une tribu qui se trouve à l'Orient d'Israël, de l'autre côté, à l'Est, de l'autre côté du Jourdain. Les Édomites, des combattants farouches contre Israël. Mais il y a d'autres tribus aussi. Il y a Moab, il y a Ammon. Il y en a trois. Il y en a trois. Et ça n'a jamais été des grands amis d'Israël. Ce qui est assez étonnant aujourd'hui, c'est cet état de pacifisme de la Jordanie à l'égard d'Israël. Des accords, etc., sous, bien sûr, la pression des États-Unis. Et par intérêt, ils sont... Mais, ça n'a jamais été dans l'histoire un peuple favorable à Israël. Ça pourrait se réveiller. Il y a des textes qui nous le montrent, nous en parlent dans Ézéchiel, au chapitre 38 et 39. ça pourrait se réveiller. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Edom? Eh bien, c'est toujours des crimes, toujours du sang, hein? 3 crimes, 4 crimes, etc. Et alors, il a poursuivi ses frères avec l'épée. J'enverrai le feu dans tes mains. Tes mains, c'est Petra. Quand vous regardez des bouquins, des trucs touristiques, en Jordanie, vous voyez la ville de Petra, une ville souterraine, hein, toute taillée avec des palais, des temples religieux, dans la montagne. Et très, presque inaccessible. Hein. On l'a trouvée seulement en 1948, alors qu'elle existait depuis longtemps. Et pratiquement, Edom, Esaü, hein, descendant d'Esaü, pratiquement, cette civilisation a poursuivi ses frères avec l'épée. Ben oui, chaque fois qu'il y avait des problèmes à Jérusalem, les Juifs partaient vers cette région-là, et puis eux les refoulaient avec l'épée, les tuaient ou les remettaient aux ennemis. Alors, au verset 13, à cause de 3 crimes des enfants d'Amon, même de 4, donc toujours des excès de violence, de meurtre, d'assassinat, hein. Pourquoi? Mais parce que ça c'est au-dessus, hein, c'est tout près vers le nord, hein, tout près de Galad. Eh bien parce que quand Galad a été envahi par les Syriens, beaucoup de Juifs se sont sauvés vers le sud, dans la tribu d'Amon. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a éventré les femmes enceintes. Ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galad afin d'agrandir leur territoire. Et encore, pendant que la Syrie attaquait d'un côté, ils attaquaient de l'autre pour prendre une partie du territoire. Donc, on voit bien que la férocité avec laquelle se comportent tous ces peuples n'est pas due à l'islam, les amis. Hein? J'ai l'impression qu'ils aiment ça, c'est tout. Hein? Quand d'autres aiment les frites, hein. Bon, ben voilà, ils aiment ça. Et c'est terrible, c'est très grave. Des peuples cruels comme ça. Alors, Dieu annonce, bien sûr, la destruction de cette civilisation. Alors, Amos, chapitre 2. À cause de 3 crimes de Moab, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a brûlé et calciné les os du roi d'Édom. Donc, Moab s'est attaqué à Edom, a mis le feu, etc. Et il sera brisé aussi. Les Moabites. Si vous voulez savoir quelque chose sur les Moabites, notez-le, vous allez lire Ésaïe, chapitre 15 et 16. Ésaïe en parle beaucoup, dans chapitre 15 et 16 d'Ésaïe. Il explique ce que Dieu a contre ce peuple. Hein? Ésaïe, chapitre 15 et 16. Ça vaut la peine de lire, parce que parfois on n'a qu'une phrase chez Amos, et puis chez un autre on en a 2 pages. Ce qu'il faut faire, vous voyez, en lisant la Bible, c'est d'enrichir votre connaissance simultanée sur les différents livres. Hein? Les connexions qu'il faut faire. Pourquoi? Ben pour avoir une vision plus claire de ce qui s'est passé, et comprendre ce que Dieu a dénoncé réellement. Et pourquoi les prophètes ont agi, ont travaillé pour Dieu à ce moment-là? Alors maintenant, au verset 4, c'est réellement une malédiction sur Juda, donc la région de Jérusalem, la tribu de Benjamin et de Juda. Parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel, ils n'ont pas gardé les ordonnances, et ils ont construit des idoles mensongères, bien sûr. On a trouvé Astarté dans le temple à Jérusalem. On a trouvé des hauts lieux où on adorait Astarté et d'autres. Hein. Et j'ai vu en archéologie, à une émission de Arte, qu'on considérait que elle, le Dieu d'Israël, eh bien, son épouse, c'était Astarté. C'était quasiment équivalent. On adorait elle, Elohim, et Astarté, presque sur le même pied. Ben, ce n'est pas très différent, bien sûr, dans certaines périodes et certaines régions d'Europe. Quand vous voyez des cathédrales avec la statue de Marie sur un trône avec la couronne a la même importance que, ou plus que Jésus. C'est pas différent. Alors, pour ça, Dieu envoie le feu sur cette région. Maintenant, il parle de la région où travaille, où habite Amos. C'est Israël, au verset 6. Et donc, c'est, qu'est-ce qui est annoncé? C'est la destruction d'Israël qui aura lieu en 722, sous la pression, l'arrivée du roi de Syrie. Hein? Ok? Donc, vous avez une vision d'une époque assez féroce, sanglante, où Dieu n'est pas content, mais deux personnes. Hein? Et il va agir pour sévir. D'accord? Bon, maintenant, au chapitre 3, il faut savoir que la place d'Israël, les 10 tribus du nord et 2 tribus du sud, ont un rôle spécifique dans le plan de Dieu. Même s'ils vont subir un châtiment, ils ont un rôle spécifique. Et là, le prophète va le rappeler. Alors, chapitre 3, verset 2, « Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtirai pour toutes vos iniquités. » Iniquité, c'est l'art de pécher en sachant que Dieu l'interdit. Que Dieu ne veut pas ça. On est pleinement conscient de ce qu'on fait. C'est un affront délibéré à Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a voulu pour Israël? C'est peut-être quelque chose de difficile d'imaginer pour vous, mais allons dans le livre du Lévitique. Le livre du Lévitique, nous ne pouvons pas mettre Israël sur le même pied qu'un autre peuple, les amis. Ce n'est pas possible. Surtout pas. Même si c'est des hommes faits avec la même os, la même chair que nous. Hein? Enfin, il y a peut-être des variantes au niveau code génétique, etc. Mais ce qu'il y a, c'est des pécheurs. Et ils sont appelés à être sauvés par grâce, par le sang de Jésus, comme tout le monde. Mais ils avaient reçu un appel. Très important. Lévitique, chapitre 19. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Appel à la sainteté. Oh ben là, ça c'est un sacré programme. Mais les amis, est-ce que vous savez que c'est votre programme? C'est notre programme, la sainteté? Eh oui. Pierre, dans l'Épître, reprend ce verset-là. L'apôtre Pierre, il reprend ce... Et il dit, il faut faire attention. C'est l'appel de Dieu. Alors, chacun de vous respectera sa mère, son père, observera mes sabbats, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez pas vers les idoles, vous ne ferez point des dieux de fonte. Explication sur des choses à ne pas faire. Hein? Et je ne vais pas tout lire, mais regardez au verset 11. Vous ne déroberez pas, donc pas de vol. Vous n'userez pas de mensonge ni de tromperie les uns vers les autres. Voilà. Ça, les amis, c'est un sacré programme moral. Hein? Vous ne jurerez point faussement par mon nom. Car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras point ton prochain, tu ne raviras rien par violence, tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire de l'ouvrier. Alors, tu ne maudiras pas un sourd, tu ne mettras pas devant un aveugle quelque chose qui puisse le faire tomber. Tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Tu ne favoriseras point la personne du grand, donc du riche, du puissant. Tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Donc, tu ne peux pas haïr ton frère dans ton cœur. C'est-à-dire, eh bien, ce que Caïn a dit à Dieu... Suis-je le gardien de mon frère, il avait tué Abel? Eh bien, non. Non à ce péché venu depuis Adam et Ève. Non à ce péché de Caïn qui a tué son frère et qui a eu le tout bête de dire à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Non à la violence. Non à la haine. Non au sang. Vous comprenez pourquoi alors Amos, tout le départ, sa prophétie tourne sur la férocité? le caractère sanglant des comportements. Verset 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Donc, ne pas haïr dans le cœur, c'est comme Jésus, hein? Jésus a toujours dit que ça se passait dans le cœur, tout ce qui nous souillait. Hein? Que même la colère, même dans le cœur, faisait de nous un meurtrier. Il faut lire Matthieu chapitre 5 et 6. Hein? Tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Pan. Et il y a bien d'autres choses dans Lévitique. Mais c'est pour vous dire qu'il y a un objectif majeur, c'est ne pas prendre le péché d'Adam et Ève comme principe. C'est ne pas prendre le péché de Caïn comme principe. C'est de prendre l'appel de Dieu à la sainteté depuis Adam et Ève, avant le péché, comme principe. C'est de reconnaître à Dieu la sainteté et notre vocation de sainteté. Et donc Israël a été appelé à être un témoin de cet appel de Dieu à la sainteté. Pour tous les peuples. Pour tous les peuples. Il y a bien d'autres textes, les amis. On verra ça dimanche prochain. Mais ce qu'il y a, retournons à Amos. Si Amos paraît, c'est pas accidentel. Un prophète n'est pas un bricoleur. Il porte la parole et il porte la pensée de Dieu qui a toujours été la même depuis toujours. C'est pas quelqu'un qui a commencé à réfléchir, je devrais dire ci, je devrais dire ça. Non, c'est vraiment la parole venue de Dieu qu'il doit transmettre. C'est un porte-parole. C'est ça qui le différencie des bricoleurs, des faux prophètes. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui est très important? C'est l'élection divine. Vous venez de voir dans Lévitique que l'élection de Dieu sur ce peuple est importante. Parce qu'il faut ouvrir la brèche. Le monde est prisonnier du mal, du péché, de la méchanceté. Il faut casser un des murs et rentrer dedans. Israël devait être le fer de lance pour proposer au monde un autre message que celui de Caïn. C'est celui du péché d'Adam et Ève. Alors, regardons Amos chapitre 3, versets 2 et 8. Je vous ai choisi vous seul parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtirai pour toutes vos iniquités. Ben oui, puisque vous avez un rôle tellement important et vous le souillez. Ce que je veux dire, les amis, c'est que si vous vous êtes engagé en tant que chrétien, faites attention à vous, hein. Vous avez une lourde responsabilité devant Dieu. Ne jouez pas. Vaut mieux rester un athée et tout que de devenir un chrétien qui trahit le Seigneur. On va aller jusqu'au verset 8. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Donc on ne peut pas dire que Dieu est un goujat qui va amener le malheur sur ces peuples-là sans les avoir prévenus. Aucunement. Il a pris le temps d'envoyer les prophètes et les prophètes pour les prévenir. Faites gaffe, ça va barder un jour. Vous avez vu, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait prié. Donc, Dieu a parlé, qui ose ne pas avoir peur? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Est-ce que moi, Amos, je vais me taire alors que Dieu m'a dit de le dire? J'en ai pas le droit de me taire. Les amis, vous savez que les chrétiens ont plusieurs statuts dans l'Apocalypse, au chapitre 5. Nous avons été sauvés par le sang de l'agneau immolé. Hein? Pour faire de nous, de toute race, de toute tribu, de toute langue, de toute nation, un peuple de rois, de prophètes et de prêtres. Prêtres, c'est-à-dire nous prions directement Dieu nous-mêmes. Hein? Nous avons le sacerdoce, nous pouvons prier même pour le monde. Hein? Mais il n'y avait pas dans le peuple chrétien de prêtres comme il y a dans l'Église catholique ou dans l'Église orthodoxe, copte, etc. Mais ce qu'il y a, nous avons des fonctions. Le sacerdoce, le droit de prier directement, d'intercéder. Et la deuxième chose, la prophétie. Nous devons parler au nom de Dieu. Pas toujours de la pluie, du beau temps, de la météo et des bêtises qui passent par la tête. Parce que c'est plus facile, ça, on s'engage pas. Et puis roi, c'est quoi? Je domine sur mon péché. Je ne me laisse pas conduire par le diable où il voudrait bien que j'aille. J'ai une forme de royauté sur ce monde, sur le prince de ce monde, sur le péché que Adam et Ève m'ont refilé. Donc, faites attention, les amis. Ce texte-là, pour moi, il a un équivalent pour les chrétiens. Parce que le prophète dit, le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Mais moi, je suis obligé de le faire. Les gars, ça vous plaise ou vous ne plaise pas, je dois le faire. Voilà, c'est clair, Amos n'est pas un prétentieux, c'est un messager, dévoué, et il accepte les risques. Donc nous voyons qu'il y a une élection sur Amos, mais il y a une élection sur le peuple d'Israël, pour la sainteté, et même s'il va y avoir des sanctions sur le peuple, l'élection reste. Vous savez que dans Romains chapitre 11, l'élection et les appels de Dieu sont irrévocables. Romains chapitre 11, pour Israël. Alors, est-ce qu'il y a d'autres prophètes qui ont parlé comme ça? Ben, regardez Osée, un peu avant. Osée, chapitre 12, verset 11. Osée, chapitre 12, verset 11. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Hein? Et regardez bien au chapitre 11, verset 4. Je l'ai tiré avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Il a envoyé les prophètes d'abord pour leur parler avec compassion, avec amour. Et ça n'a pas marché. Quand les autres venaient parler avec amour, alors maintenant, ben, j'envoie un messager qui va dire, ça va barder. On va voir. Le lion rugit. On va voir. Et on se moque de Dieu, le lion rugit. Que fait notre société aujourd'hui? Le lion va rugir. Moi, j'en suis sûr. Le lion de Juda va rugir. Ne soyez pas ce christianisme endormi qui va mal se réveiller. Mal se réveiller. Dans Jérémie, chapitre 5, verset 21. Jérémie, chapitre 5, verset 21. Pourquoi je fais ça? C'est pour vous montrer qu'ils sont au pied de Dieu, au service de Dieu. Ce n'est pas des prétentieux, ces prophètes-là, vous savez. Ils ont souffert beaucoup. Les prétentieux et les vantards et les faux prophètes, on n'en parle plus d'ailleurs. Ils sont morts, ils iront en enfer. Ils ne sont pas dans la Bible. Chapitre 5, verset 21. Écoute ceci, peuple insensé, et qui n'a point de cœur. Vous voyez que je vous avais dit qu'il avait déjà cherché à toucher le cœur, hein, les cordages d'amour et tout ça dans Osée. Eh bien, ils ont des yeux, ne voient point, ils ont des oreilles, n'entendent point. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi? Eh bien, vous tremblerez, puisque quand je vous parle avec amour, ça ne vous fait rien. Hein? Mais prenez l'image d'un papa avec des enfants. Il répète une fois, deux fois, quelque chose. Le gosse, il bouge plus, il s'en fout. À un moment donné, qu'est-ce qu'il attend? La fessée. Il l'aura, la fessée. Ou une punition, une autre. Il l'aura. Et il faut bien qu'il l'ait. Autrement, ça deviendra quoi, cet enfant? Hein? Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose, les amis, avec Dieu et les prophètes. Alors, il y a une élection sur Israël, il y a une fidélité de Dieu dans son alliance avec Israël, il y a une rupture du côté des Juifs avec Dieu, il y a des prophètes qui ont parlé avec amour, avec autorité, et des prophètes qui vont parler avec sévérité. Sévérité. Et c'est le cas d'Amos. Alors, que refuse Dieu? Parce que ce peuple a des rites religieux. Il fait, je dirais, des grimaces régulièrement, le jour du sabbat, etc. Il fait des courbettes devant Dieu, etc. Et il y a encore ça aujourd'hui, hein? Eh bien, regardez au chapitre 4, verset 4. Au chapitre 4, verset 4. Mmh. Allez, Bethel et péché. Bethel, c'était une localité qui faisait partie des 10 tribus du Nord. C'est l'endroit très important où Jacob a vu Dieu, hein, où plusieurs fois il a construit, il a posé une pierre, il a construit ce qu'on appelle un autel pour Dieu, il avait versé de l'huile dessus, il avait vu une échelle jusqu'au ciel, les anges qui montaient et descendaient. Donc c'est un lieu très important pour Israël. Et allez à Bethel, mais voilà ce qu'il dit. Convertissez-vous, changez de vie, non, péchez, restez dans l'état que vous êtes. À Gilgal, c'est pas loin de là, Gilgal. C'est un endroit où chaque fois que le peuple d'Israël était attaqué, il devait se regrouper, il devait, donc je suis dans Amos, chapitre 4, verset 4. Donc, pratiquement, dans cet endroit, Gilgal, chaque fois qu'il y avait eu des combats, des difficultés, les Hébreux, les Juifs se réunissaient là, reprenaient force, s'équipaient en armement, priaient, etc., repartaient au combat. Gilgal, c'est un endroit vraiment d'affermissement, hein, et qui était important, qui est d'une grande symbolique pour Israël, encore aujourd'hui. Et pêchez davantage. Faites tout ce que vous voulez avec vos réunions, préparez-vous, vous pouvez. Vous voulez, vous aimez votre péché, faites-le. De toute façon, vous pourrez vous battre, vous serez cassé en deux, en mille morceaux quand même. Vous serez sanctionné, chapitre 1 et 2. Hein. Alors, faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Normalement, c'est sans levain. Donc, ça veut dire avec des mauvais enseignements. Quand il y a du levain, Jésus a pris cette image. Faites vos sacrifices et vos adorations à Dieu avec des mauvais enseignements, avec des mauvais prophètes, hein, avec des mauvaises lois, des mauvais prêtres qui n'obéissent pas. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires. On veut ça. On est croyant. On veut ci, on veut ça. C'est comme ça, on a toujours fait comme ça, comme papa et maman, etc. Hein? Volontaire, c'est basé sur la volonté. L'arrogance, l'impertinence à l'égard de Dieu. C'est un peu comme Abel, en face de Dieu, qui offre ses trucs et qui dit, ben maintenant, Dieu, tu me dois quelque chose. Mais non! Avec Cain, plutôt, avec Cain. Ça ne marche pas. Dieu ne veut pas de ce genre d'offrande de Cain. C'est là ce que vous aimez, enfant d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Donc, une prière arrogante, sans notion du péché, sans repentance, sans conversion. Ok? Eh bien, Dieu dénonce ça. Ça, c'est la racine même de la mauvaise spiritualité du peuple. Hmm? Alors, un peu plus loin, il va encore dénoncer quelque chose au verset 8. Deux villes, trois villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau. Ben oui, il ne pleut plus. Dieu a sanctionné, il ne pleut pas. Il y a deux, trois villes qui n'ont pas d'eau, mais il y en a une, la quatrième, elle a de l'eau, il a plu. Ben les gens de ces trois villes-là vont aller là-bas, et les gens de la quatrième ville qui ont eu de l'eau n'en donnent pas. Donc, pas de compassion, pas d'amour fraternel, pas de solidarité dans le peuple. Du chacun pour soi. Ok? Ce sont des grands principes modernes, les amis, de ce monde, du chacun pour soi. Elles n'ont point, trois villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et cette phrase va revenir plusieurs fois dans le chapitre 4. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Hein? Et les 5-6 fois dans le chapitre. Alors, le but de Dieu, c'est de revenir à sa personne, de revenir avec un cœur repentant. Repentant. Et d'aller à sa rencontre. Et regardez dans le chapitre 4, au verset 11 et suivant, « Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorre, que Dieu détruisit. Vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Ce verset-là est très important, les amis. « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Donc, dans sa colère, Dieu va se manifester, se présenter à son peuple. Alors voici, celui qui a formé les montagnes, créé le vent, qui a fait connaître à l'homme ses pensées, pardon, celui qui change l'aurore en ténèbres, qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Voilà qu'Amos met tout le paquet pour défendre la grandeur de Dieu. Pour essayer de montrer aux hommes qui sont en pleine sottise, en plein péché, qu'il est temps. Parce que Dieu arrive. Dieu arrive. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Israël. Dans Jérémie 13, verset 11, c'est la personne de Dieu qui est le plus important dans la foi. Ce n'est pas les rites, les traditions. Ce n'est pas ce que papa et maman m'ont appris, etc. Chapitre 13, verset 11. Comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple, mon nom, ma louange, ma gloire. Et ils ne m'ont point écouté. Écoutez, un verset pareil, c'est aussi pour les chrétiens. Relisez-le tous les jours, les amis. Je m'étais attaché toute la maison d'Israël, toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle fusse mon peuple, mon nom, ma louange, ma gloire, ils n'ont point écouté. Alors, vous avez juste après un récit dans Jérémie où Dieu remplit des vases de vin et il fait boire tout le monde jusqu'à l'ivresse. Dans Jérémie, là, chapitre 13, tu leur diras cette parole, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les vases seront remplis de vin. Ils te diront, ne savons-nous pas que tous les vases sont remplis de vin? Alors dis-leur, ainsi par l'Éternel, je remplirai tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les prêtres, les prophètes et tous les habitants de Jérusalem, je les remplirai d'ivresse. Mais ce n'est pas celle du Saint-Esprit, l'ivresse, la Pentecôte. Je les briserai les uns contre les autres, les pères et les fils, ensemble, dit l'Éternel. Je n'épargnerai pas, je n'aurai point de pitié. Rappelez-vous les noces de Cana avec Jésus, quand il y a les cruches, et qu'il y a 600 litres d'eau qui sont changés en vin. C'est un avertissement solennel que s'ils n'acceptent pas Jésus, la colère de Dieu viendra. Et Titus est venu. Il n'est rien resté en l'an 79. Il n'est rien resté. Regardez ce texte. Eh bien, ce texte, il s'est déjà produit dans l'Ancien Testament. Nebuchadnezzar de Babylone est venu. Il n'est rien resté. Lorsqu'on joue trop avec Dieu, alors le thème central au chapitre 4, verset 12 de Amos, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Que ce soit une rencontre d'amour, mais puisque tu refuses l'amour, que ce soit l'autorité. Tu refuses l'autorité, que ce soit la sévérité et le châtiment, tu me rencontreras. Tu me rencontreras parce que moi je suis Dieu. Et toi, tu n'es qu'un homme. Quand? Voilà ce que dit le prophète. Alors, au chapitre 5, il va faire des reproches. Au verset 7, vous changez le droit en absinthe. L'absinthe, c'est une poisson très amère. Le droit, la justice, tout est changé. Et ça amène de la tristesse. ça amène de l'amertume chez tout le monde. Vous foulez à terre la justice. Au verset 10, ils haïssent celui qui les reprend à la cour. Donc, s'il y a un juge, s'il y a quelqu'un qui fait la morale, qui rappelle des droits, des bons droits que Dieu a mis, ils ont de la haine pour lui. Ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Aussi parce que vous avez foulé le misérable, vous avez pris de lui du blé en prison, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Regardez au verset 12. Je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez des présents, vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait. Donc, celui qui a réfléchi, qui pourrait dire quelque chose, pour que ça change, il n'a pas droit à la parole. Car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien, non le mal, afin que vous viviez et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Vous dites que Dieu est avec vous ? Ben, on va le voir. Si vous voulez qu'il soit avec vous, changez de vie. Haïssez le mal, aimez le bien. Régnez à la porte. Faites régner à la porte de la justice. Vous savez, dans le livre des Proverbes, l'intelligence, c'est la haine du mal. La haine du péché. Dans le livre des Proverbes. Mais vous retrouvez ça ici, dans Amos. Alors, il y en a qui voudraient bien que Dieu vienne. Ah oui, Dieu est grand, Dieu est grand. Dieu vient. Eh bien, regardez au verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel ? Des félicitations ou des sanctions ? Vous aurez des sanctions, vous aurez des châtiments. Vous n'aurez pas des bouquets de fleurs et des trônes en or tout près de Dieu. Vous voyez ? Verset 19, vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre après un ours. Hein? Donc, réellement, on voit que Amos est très sévère et au verset 21, je hais, je méprise au fait, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Osez, au chapitre 6, ça dit la même chose. Osez a dit la même chose au chapitre 6. Au verset 25, 23, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau, ça c'est un très beau verset, que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Qui jamais ne tarit. Les amis, ça veut dire quoi ça ? Eh bien, on va aller voir dans Jean, et on va arrêter pour aujourd'hui ici. On reprendra la suite dimanche prochain. Dans Jean, cette source qui coule sans fin, elle est, on en parle. Dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, donc le jour de Pâques où Jésus allait mourir pour nos péchés sur la croix. Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'ils viennent à boire à moi et qu'ils boivent. Vous vous rappelez que dans Amos au chapitre 8, les beaux jeunes gens et les bonnes jeunes filles auront soif. Regardez, regardez le parallélisme. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Seul est la Samaritaine. Si tu me demandais de l'eau, je t'en donnerais, tu n'auras plus jamais soif. Au chapitre 3 de Jean. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit Saint n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mort sur la croix, ressuscité, glorifié. Donc nous avons réellement là ce qu'a dit Amos, ces torrents d'eau vive qui coulent à jamais, le voilà bien décrit ici. Et déjà la Samaritaine, parce qu'on est dans le pays des Samaritains, hein, regardez, Jésus a parlé à la Samaritaine comme Amos a parlé aux Samaritains. Qu'est-ce qu'il dit à cette femme dans Jean chapitre 4? Jésus, chapitre 4, verset 10, il répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc, vous voyez le thème qui est dans Amos, et qui est déjà bien cerné par beaucoup de prophètes, le voilà ici. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, par le Christ, à travers les Écritures, nous voyons que l'homme peut être alimenté par une puissance de justice et de sainteté où le péché n'aura plus autorité, où la déchéance du péché n'aura plus son autorité. Vous voyez? Et ça, c'est extrêmement important. Un prophète s'insère dans une chaîne avec d'autres maillons. Et le maillon suprême, le dernier maillon de la chaîne, c'est Jésus-Christ. Chaque maillon a amené jusqu'à Jésus-Christ, dans la chaîne des prophètes. Et ce courant d'eau, de droiture, de sainteté, de justice, qui doit couler de le Mont Saint, Amos, on le voit chez Jésus. C'est Jésus, la source de cette vérité. Ceux qui ont un cœur droit, quand ils ont entendu Amos, c'est comme la Samaritaine. Il y a plein de pécheurs qui ont entendu. Mais il y a des gens qui ont compris et qui ont dit, Seigneur, je me repens de mes péchés. Seigneur, je sais que tu enverras le Messie. J'attends ce jour-là. Mais la majorité des gens à côté disaient qu'il la ferme, qu'il se taise. C'est un enquiquineur. La majorité des gens. Mais il y a toujours eu, dans le peuple juif, des gens qui avaient ce cœur humble, pauvre et vrai, et qui attendaient, et on appelle ce courant les Anawim, les petits de Dieu, les pauvres de Dieu. Et les pauvres de Dieu, par exemple, quand Marie et Joseph arrivent dans le temple, apportent Jésus pour la circoncision, Anne et Siméon en font partie. Les bergers d'Israël qui viennent à la crèche en font partie, vous voyez? Mais Nicodème aussi. Nicodème, Joseph d'Arimathie. Dans toutes les classes sociales, il y a de ces gens dont le cœur était porté à une véritable onction du Saint-Esprit, à un renouvellement complet, par la grâce de Dieu. Voilà, que le Seigneur nous bénisse et que Amos reste dans nos cœurs. Nous continuerons dimanche prochain. Au nom de Jésus, que le Seigneur nous garde toute la semaine. Amen.